Vous êtes bien sur RFI, 2h à Paris, minuit en temps universel.
Mathis Limano.
À la une de votre journal, le fugitif le plus recherché de Guinée a bien été extradé dans son pays. Arrêté au Libéria, Claude Pivi se trouve en prison en Guinée. En son absence, il avait été condamné à la prison à perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. En France, le procès des viols de Mazan se poursuit. La cour a commencé à interroger les premiers des 50 co-accusés de Dominique Pellicot. Dans ce journal, le compte-rendu d'audience de Laura Martel. Et puis, Nintendo s'est-il fait plagier? C'est ce qu'avance l'éditeur japonais de jeux vidéo. L'objet du plagiat, sa licence Pokémon. Bienvenue. Claude Pivi, l'ancien colonel guinéen, a bien été extradé vers la Guinée depuis le Libéria où il a été arrêté. Toute la journée de jeudi, des informations parfois contradictoires ont circulé sur son lieu de détention. Et finalement, Florence Maurice, l'ancien fugitif condamné à la perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, se trouve ce soir dans la prison de la ville de Koya, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry. Information révélée par Jeune Afrique et confirmée par RFI.
Oui, une prison récente, puisqu'elle a été reconstruite il y a peu et est considérée comme moderne et bien sécurisée. Koya donc, et pourtant ce midi, le procureur militaire de Conakry a d'abord indiqué que l'ancien fugitif avait été renvoyé à la prison centrale de Conakry, d'où Claude Pivi s'était évadé en novembre dernier. Mais personne dans la capitale ne semblait confirmer cette information. L'avocat de Claude Pivi assurait même avoir dépêché quelqu'un sur place et que son client y était introuvable, avant d'expliquer plus tard dans la journée que les autorités judiciaires lui avaient demandé de garder son lieu de détention secret. Ce soir, l'avocat confirme finalement que son client est bien à Koya, après que le garde des Sceaux l'a déclaré à nos confrères de Jeune Afrique dans une interview. L'avocat de Claude Pivi assure que son client, certes malade, se porte mieux et qu'il pourra lui rendre visite demain. Selon une source officielle guinéenne, Claude Pivi souffre d'un diabète aigu pour lequel il a besoin de médicaments. Et c'est en suivant cette piste que les autorités libériennes auraient retrouvé sa trace et mis fin à une cavale qui durait depuis près d'une année.
Précision signée Florence Maurice. Au Mali, toujours aucun bilan officiel de la double attaque djihadiste qui a frappé mardi la capitale. Une école de gendarmerie et une base militaire située à l'aéroport de Bamako ont été visées par le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il est lié à Al-Qaïda. Les autorités maliennes de transition reconnaissent quelques pertes en vies humaines, mais des sources sécuritaires et civiles maliennes parlent de plus de 70 morts. Après les explosions des beepers et talkie-walkie au Liban qui ont fait 37 morts et 3000 blessés, le discours très attendu du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. Il a attribué l'attaque à Israël, a estimé que l'État hébreu avait franchi toutes les lignes rouges et a promis un terrible châtiment. Reconnaissant aussi que son organisation avait subi un coup très dur et sans précédent dans son histoire. Côté israélien, aucun commentaire, on ne reconnaît pas l'attaque. L'objectif désormais de Benjamin Netanyahou, c'est le retour des habitants du nord d'Israël dans leur foyer mardi maximum. Les forces israéliennes ont mené une centaine de raids aériens ce jeudi. L'Iran, premier soutien du mouvement chiite, a menacé Israël d'une réponse écrasante après les explosions de beepers et de talkie-walkie. Les États-Unis et les Nations Unies ont appelé à éviter toute escalade régionale. Nations Unies, dont le Conseil de sécurité se réunit ce vendredi en urgence. Par ailleurs, les compagnies aériennes Lufthansa et Air France ont annoncé prolonger la suspension de leurs vols vers Tel Aviv et Beyrouth. Air France jusqu'au 20 septembre pour les deux villes, Lufthansa jusqu'au 24 septembre pour Tel Aviv et jusqu'au 26 octobre pour Beyrouth. À Avignon, la cour criminelle a commencé ce jeudi à interroger les premiers des 50 co-accusés de Dominique Pellicot. Ce septuagénaire comparé pour avoir recruté sur Internet pendant près de 10 ans des dizaines d'hommes pour violer sa femme Gisèle après l'avoir droguée. Le premier de ces hommes, aux âges et profils très divers, Lionel, un vendeur de 44 ans aujourd'hui, a reconnu les faits. Laura Martel.
Dès son arrivée à la barre, Lionel expose sa position. « Je n'ai jamais eu l'intention de violer Madame Pellicot, mais n'ayant jamais eu son consentement, je ne peux que constater les faits. » Marié, père de 3 enfants, Lionel mène une vie heureuse avant de tomber dans une sombre spirale. Alcool, dépression, endettement, infidélité. Et puis un jour, parmi les propositions qu'il reçoit sur le site porno Coco, celle de Dominique Pellicot pour une relation à 3. Une proposition un peu originale, concède-t-il. Il dit qu'il est en couple, mais qu'elle dormira. Il me parle de cachet qu'il lui donne ou qu'elle prend elle-même. Ce n'est pas très clair, mais à ce moment là, je ne me pose pas plus de questions, je suis persuadée que c'est un fantasme de couple. Sur place, Madame Pellicot dort vraiment, c'est clair, pointe-t-il, mais je fais ce qu'il me dit de faire, ce n'est pas une excuse, mais je perds complètement pied. Ce n'est que 30 minutes plus tard, quand Dominique Pellicot le fait sortir de la chambre parce que Gisèle bouge, qu'il réagit. Je réalise qu'il y a un gros problème, puisqu'il ne faut pas qu'elle se réveille devant moi. Lionel exprime ses regrets de ne pas avoir prévenu la police, notamment par lâcheté, et multiplie les excuses à Gisèle Pellicot, elle reste de marbre. Je me sens coupable de viol, des actes, répète l'accusé, mais c'était involontaire, même si j'aurais dû partir bien avant. Dans le box, Dominique Pellicot commente acerbe. Il se repent, mais c'est peut-être un peu tard.
Compte rendu d'audience signé Laura Martel. L'Équateur est confronté à une vague de sécheresse. Conséquence, la baisse de la production hydroélectrique à cause du manque d'eau. Le gouvernement a donc décidé de couper l'électricité dans tout l'Équateur pendant 5 nuits. Les premières coupures ont eu lieu de mercredi à jeudi. Elles reprendront dès la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter Fernando Salinas. Il est ingénieur spécialiste en énergie. Et pour lui, la situation est également liée à un manque d'investissement.
Nous traversons une crise énergétique et ces mesures visent à rationner l'énergie de manière urgente. Le réservoir de Mazar, la principale retenue d'eau des usines hydroélectriques du pays, devrait atteindre son niveau minimum dans quelques jours. Donc les mesures visent à maintenir le niveau de l'eau pour éviter d'aggraver la situation sur nos usines hydroélectriques. La cause principale de cette situation est également structurelle. L'offre d'électricité ne répond pas à la hausse de la demande d'énergie. Les mesures du gouvernement arrivent un peu tard. Il aurait fallu rationner l'électricité 1 ou 2 heures par jour dans les semaines passées, mais mieux vaut tard que jamais. Par contre, il est très possible que les coupures d'électricité s'étendent au-delà des heures prévues.
Explication recueillie par Manuel Terradios de la rédaction Amérique latine de RFI. Au Portugal, les principaux feux de forêt sont maîtrisés, annonce de la protection civile portugaise. Grâce à une amélioration de la météo, les pompiers ont réussi à maîtriser les principaux incendies qui frappaient le nord et le centre du pays ces derniers jours. 5 personnes en sont mortes et 10 000 hectares de végétation sont partis en fumée. Le milieu du jeu vidéo secoué par une affaire de plagiat. La célèbre entreprise japonaise Nintendo a porté plainte devant un tribunal de Tokyo contre l'éditeur du jeu Palworld. Le géant japonais du jeu vidéo est l'un des 3 propriétaires de Pokémon. Il l'accuse d'avoir plagié la licence via de multiples violations de brevets. Explication avec Nathanaël Vitran.
Un monde ouvert peuplé de créatures à capturer et à collectionner. Sans que Pokémon ne soit jamais cité, Palworld ne fait pas mystère de ses inspirations. L'éditeur japonais Pocket Pair propose toutefois une formule plus irrévérencieuse. Loin de l'univers enfantin de Nintendo, les créatures de Palworld peuvent être réduites en esclavage ou dévorées. La presse et les influenceurs résument rapidement le jeu d'une formule. Palworld, c'est Pokémon sous stéroïdes avec des flingues. Le concept fait mouche et lorsqu'il sort en janvier, le succès est aussi soudain qu'inattendu. Pocket Pair vend 5 millions de son jeu en 3 jours et revendique 25 millions de joueurs un mois plus tard. Beaucoup pointent alors du doigt la ressemblance frappante entre certaines créatures de Palworld et celles de Pokémon. Nintendo, pourtant connu pour être particulièrement procédurier, observait depuis la sortie un silence suspect. L'enjeu est pourtant de taille, Pokémon est de loin la licence la plus lucrative au monde, devant Mickey Mouse, Hello Kitty, Star Wars ou Harry Potter. La plainte de Nintendo ne parle pourtant pas de violation de propriété intellectuelle. Visiblement, Goliath a renoncé à poursuivre David sous cet angle. En revanche, le géant japonais accuse son petit rival de violation de brevet, visant donc les mécaniques du jeu. La justice japonaise tranchera.
Et puis du football pour refermer votre journal avec une très belle soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. L'AS Monaco s'est imposé 2-1 contre un FC Barcelone handicapé par un carton rouge dans les premières minutes du match. Le petit poussé français, le Stade de Brest, l'a emporté sur les Autrichiens du Sturmgaz 2-1 pour sa première en Ligue des Champions. Sur les autres terrains européens, les Allemands du RB Leipzig se sont inclinés à Madrid contre l'Atlético 2-1. Enfin, l'Atalanta Bergame et Arsenal se sont quittés sur un nul 0-0. RFI, presque 2h10 dans nos studios à Paris. Tout de suite, c'est Couleur Tropicale. Retour de l'info dans 50 minutes.